présentons dans la série L'écran radiophonique. Un scénario original de Julien Jean-Pierre. La deuxième époque de Violence et Crépuscule. Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. La campagne, marche, un chien, de l'herbe, il se sent bien, un poirier, rien qu'un poirier, n'a besoin de rien. Marche dans la nuit, marche toujours. Le diable, tout tourne, il veut le cri et rien d'autre. Puis, il sent de violentes poussées de douleur, douleur atroce au crâne, qui devient de plus en plus forte et paralyse ses membres. Cette douleur, si étrange, le met en sueur. Il ne voit rien. Il sent que ses yeux sont ouverts, mais ne voit rien que les images qui sont à l'intérieur de lui. Puis, il sent qu'il gonfle, gonfle, qu'il étouffe. Il aime crier, mais ne le peut pas. Il a l'impression qu'on lui enfonce une aiguille dans le bras et un liquide chaud entre dans son bras. Il est brûlant. Tu m'entends, mon chéri? Je suis ta femme. Tu m'entends? Je suis ta femme. Tu m'entends, mon chéri? Cette phrase, dite en écho, lui fait mal. C'est comme si elle entrait de force dans son corps. Puis, plus rien. Ou des images qui vont très vite, très vite. Puis, c'est comme s'il y avait une bataille à l'intérieur de son cerveau. Une lutte pour faire partir l'usurpateur qui veut prendre la place. Il le sent, car son cerveau lutte contre cette chose extérieure qui vient donner des ordres à l'intérieur de lui. Des images qui veulent s'imposer sont refoulées, troublées. Elles veulent s'imposer en donnant des messages à toute allure pour dérégler le cerveau et l'empêcher de s'imposer. Puis, c'est le repos, le noir. Durant tout ce temps, Riquin est prêt de le mercier et à assister à la lutte des deux cerveaux. Le mercier est resté sans bouger pendant quelque temps. Alors, on le laisse seul et on vient le voir toutes les 2 heures. Riquin dit à l'enfant, il faut qu'il reprenne des forces, mais son cerveau a connecté l'autre cerveau. Comment le savez-vous? Par les signaux qu'il a reçus, sa grande nervosité qu'il a eue. Attendons. 2 jours passent. Et une nuit, le mercier se réveille petit à petit. Quelque chose le pulse, le propulse.
Il se lève en arrachant toutes ses cendres.
Il ne peut penser, mais agit, parce qu'on le pousse à le faire. Il ne sait pas où il est, mais sait qu'il doit partir d'ici. Une fois debout, il a le vertige d'être resté longtemps allongé et de ne pas avoir mangé.
Il réussit, c'est à faire quelques pas dans la pièce. Il est en chemise d'hôpital. Une voix lui dit, ça doit être la sienne, qui doit s'habiller. Il va ouvrir le placard penderi, où se trouvent ses vêtements. Il ouvre et trouve ses vêtements sur un cintre. Il enlève sa chemise de nuit. Et s'habille. Une fois habillé, il sort de la chambre.
Un grand couloir vide, pas de bruit. Couloir Jean, couloir d'hôpital. Il suit le couloir en suivant la flèche, sorti. À la fin du couloir se trouvent des escaliers. Il les prend et descend. En bas se trouve un hall. Il y a une banque avec une femme en blouse blanche qui doit être l'hôtesse. Elle lit un livre. Il se baisse un peu pour ne pas être vu et va jusqu'à la sortie.
Ouvre la porte et sort.
Dehors, il fait nuit. La fraîcheur, l'air, lui donne le vertige. Il marche, sort du parking et se retrouve sur la route. Il marche tout droit. Il ne pense à rien. Il a reçu l'ordre de le faire, il le fait. Après une heure de marche, il se sent fatigué. S'assoit sur le bas-côté de la route, dans l'herbe. Tout tout à coup une douleur terrible à la tête. Et sent qu'on lui enfonce une piqûre sans son liquide en lui. Pourtant, on ne le pique pas. En réalité, il sent tout ce que sent l'autre et fait sans ce que fait l'autre, qu'est le clair. Vient de sortir de l'hôpital, il est sorti de l'hôpital. Il a sommeil et s'endort. Ce doit être le clair qui a sommeil. Mais il se réveille. Presque aussitôt, car il a envie de marcher, d'aller à Paris. Ce doit être Leclerc qui doit le lui dire. Il se lève et se remet en marche. Il avait un panneau, Paris, 15 km. Il décide de faire du stop. Mais là, c'est lui qui décide. L'autre ne dit rien. Il se met sur le bas-côté. Et attend. Quelques camions, voitures passent, mais ne s'arrêtent pas. Enfin, un camion s'est arrêté. Le chauffeur, un gros homme à moustache, habillé d'un t-shirt jaune et d'un jean.
Tu vas où ?
Paris.
Monte, moi aussi.
Il monte à côté du chauffeur. Il a un peu de difficulté à monter à cause que le camion est haut. Et le camion s'est mis en route. Le chauffeur lui demande :
ça fait longtemps ? Que tu attends ?
Une demi-heure.
Ah, à 16 heures, il passe pas beaucoup de monde. Et lorsqu'il passe, ça ne s'arrête pas. Mais moi, c'est pas la même chose. J'aime la compagnie. Vous venez de loin ?
Paris. Je sais plus.
Ah.
Le camionneur le regarde et lui dit :
qu'est-ce que vous êtes fait à la tête ? Vous avez un beau pansement.
Il se touche. Ne savait pas qu'il avait un pansement.
Je sais pas. Ah, j'avais un pansement, vous savez pas pourquoi.
Vous êtes battu ?
Je sais pas. Tu sais pas grand chose. Moi c'est Pascal. Et toi ?
Moi le Mercier de Claire.
Drôle de nom.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je suis avocat.
Le camionneur lui dit :
tu te fous de moi ?
Avec ta tenue,
avocat,
et en plus tu fais du stop,
je sais pas.
Je lui dis,
tu veux rien me dire, garde ta vie, chacun est libre.
Moi j'aime bien parler, mais toi si tu ne veux pas. Puis, le Mercier voit constamment un visage de femme qui crie. Il a envie fou de donner des coups de couteau. Cela le rend nerveux. et bouge tout le temps sur son siège. Le chauffeur lui dit, avant d'entrer à Paris, nous allons nous arrêter pour prendre le petit déjeuner. C'est moi qui paye. Merci, ce n'est rien. Tu as l'air d'avoir des difficultés et j'aime les gens. Le camion s'est arrêté devant un restaurant routier avec lumière rouge, enseigne énorme, coin essence. Il y a un parking devant le restaurant et qui est tout en vitre. Et au premier se trouvent des chambres.
Il entre dans le restaurant.
C'est une grande pièce avec des couleurs vives. Siège rouge, table verte, glace, affiche de films américains et photos d'acteurs. On se croirait en Amérique, il y a quelques clients. Ils vont s'asseoir à une table. Une petite blonde, jupe courte, rouge, chemise blanche. Qu'est-ce que je vous sers ?
Comme d'habitude, un bon café avec tout ce qu'il faut.
Elle lui dit. Tout ce qu'il faut. Nous avons des croissants, du maïs, du blé. Et alors, vous pouvez y mettre de la confiture, de melon. Ça vous va?
Oui, pour moi et toi.
Moi aussi. Elle s'éloigne pour aller chercher la commande.
Je viens ici tous les matins.
La serveuse vient et met sur la table la commande et s'éloigne. Il commence à manger. Le mercier a tout de suite des nausées. Il ne peut rien avaler. Son cerveau ou l'autre refuse. L'homme lui demande
« Tu n'es pas bien ?»«
Non, ça me donne envie de vomir. »«
Tu as trop fait la fête. Ça passera. »
Le mercier voit tout tourner.
Je crois que je vais aller aux toilettes.
Me passer un peu d'eau.
Oui, vas-y mon vieux. Tu es tout pâle.
Il se lève pour aller aux toilettes.
Il se trouve seul dans sa chambre.
Il a ouvert le robinet et se mouille les mains et ses manches.
Il
se lave la figure. Lorsqu'il se voit dans la glace, il se reconnaît. Il se reconnaît sans se reconnaître. Tantôt c'est lui, tantôt c'est l'autre. Il ne sait plus. Il y a toujours la nausée.
La porte s'est ouverte.
C'est la serveuse. Elle lui demande « Vous allez bien ? C'est votre ami qui m'a dit d'aller vous voir. » Il le regarde dans la glace. Elle lui sourit. Ce sourire lui rappelle un cri. Ses mains tremblent. Il est en sueur. Il a envie de ce cri. Il se retourne. Elle lui dit « Ça va ? Vous avez l'air tout chose. » Il voit le visage de la femme se dédoubler. Et ça lui donne envie de vomir.
merci. Je marchais un peu.
Et il sort. En passant devant elle, il a comme un vertige. Il retrouve le café. En passant devant le camionneur, qui lui demande
« Ça va ? Je sors un peu. Je peux manger ton petit déjeuner ?»«
Oui. » Et il sort du café.
Une fois dehors, l'air lui fait du bien.
Il fait quelques pas. Et est-ce la nuit ? Le parking est vide. Il reprend peu à peu ses esprits. Enfin, il croit ses esprits. Mais quel esprit a-t-il ? Il ne sait même pas qui il est. Ça tourne dans sa tête. Toutes ces images, tous ces sons, et même ces ordres étranges, comme s'il était à l'hôpital. Et quelquefois, cette chose étrange qui fait bip, 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 bip dans sa tête, et ces paroles qui lui disent « M'entendez-vous ? M'entendez-vous ?» Il se dit « C'est peut-être Dieu ? Ou le diable ?» Mais tout ça est très désagréable. C'est une vie. C'est comme si on avait trois personnes en soi. Est-ce une vie ? Et ce désir étrange d'avoir une femme, ou plutôt un cri de femme. Cela vous excite et en même temps vous donne envie d'arrêter ce cri. Il souffle un peu. Il se sent un peu mieux. Il lui semble qu'on le laisse tranquille. Il entend des pas derrière lui. C'est la serveuse. Elle va vers lui avec un sourire. Elle lui demande « Vous allez bien ?»«
Oui, merci. »
Parce que votre ami va bientôt finir de manger. Elle sourit bêtement et range ses cheveux nerveusement. Il doit lui faire de l'effet. Il voit double. Transpire. Décide de se laisser aller.
Vous désirez des bonbons ?
Oui, merci. Il cherche dans sa poche et ne les trouve pas. Elle lui dit :
Ça n'a pas d'importance.
Mais si ça en a, venez. Il lui prend la main et la met dans un coin plus loin sombre, derrière une haie. Voilà, ça va se passer. Elle lui sourit bêtement. Il s'approche d'elle. Tant pis. Il cherche dans sa poche le couteau, mais il n'y est pas. Elle sourit encore, un sourire bête qui l'énerve. Il lui donne une gifle. Elle crie « Ah !» Ce cri le rend heureux. Malgré lui, il bande. Elle veut s'en aller. Il la retient d'une main.
« Lâchez-moi !»
Il lui dit « Criez !» Alors, comme elle croit que c'est un défi, elle crie, elle crie. Il lui met la main au cou. Il essaie de serrer. Elle se débat. Il serre de plus en plus fortement. Elle continue à crier. Il serre, il serre. Son cri est de loin en loin. Puis, il serre sent la tête qui tombe en avant, inerte.
Il jouit, mouille son pantalon. La lorche, elle tombe à terre comme un pantin. Il s'éloigne. Il retrouve sur le parking le chauffeur qui va vers lui et lui demande.
Vous allez mieux ?
Oui, je me sens tout à fait bien maintenant. Dégagé d'un grand poids.
Vous avez vomi ?
Oui, si l'on veut.
Alors, on peut partir ?
Oui. Ils vont vers le camion et entrent dans le camion. Et s'en vont. Arrivé à Paris, le chauffeur lui dit
« Je m'arrête boulevard Saint-Germain. Ça te va ?»«
Oui. Ça va très bien. » Il a arrêté son camion devant un magasin, des centres de camions. Le mercier lui demande. Je t'aide à décharger ?
Non, le patron ne serait pas content.
Merci. Il se donne la main.
L'homme lui dit. Tu devrais tout de même aller voir un médecin.
Oui, je crois, c'est ce que je vais faire.
Tu sais, un coup sur la tête, ça peut être dangereux.
Tu as raison.
Il lui fait un signe et il s'éloigne.
Mercier ne connaît pas Paris, ni Leclerc. Ils sont tous deux de Lyon. Mais enfin, Paris, c'est la France.
Oui, mais lorsqu'on ne sait pas vraiment qui l'on est.
Marche au hasard dans les rues. La douceur de l'air, le soleil lui font du bien. Il ne pense à rien. Et puis, il a faim. Il regarde dans ses poches, il n'y a pas de monnaie, ni un peu d'argent. Mais non, ses poches sont vides, même pas de papier d'identité. Ses papiers et son argent étaient mis à la cueille pour éviter le vol et lui auraient été remis à son départ. Il se trouve à Paris, sans un sou ni papier, sans vraiment savoir qui il est, et avec de drôles de désirs. Que va-t-il devenir ? Comment trouver de l'aide ? Il a faim, il faut absolument qu'il marche. Il marche de plus en plus nerveusement, en essayant de réfléchir, Il s'assoit sur un banc et se dit : je suis qui ? Le mercier ? Le clerc ? Non ? Oui ? Et quel est mon travail ? Il ne sait pas. Où j'habite ? Lyon 1er ? 7e ? Il ne sait plus. Il a faim, très faim. Mais que faire sans de l'argent ? Il a tellement faim qu'il n'a même plus la force de marcher. Il reste assis sur ce banc, comme ça. Une femme d'à peu près 60 ans, grande, un peu forte, les cheveux blonds bouclés, lèvres grosses et très rouges. Elle est habillée d'un vieux manteau marine à col en fourrure beige, un chapeau de mémé, elle a un sac à main noir. Elle s'assoit à ses côtés et lui demande : tu as une clope ? Non, je ne fume pas. Elle lui sourit et lui dit : moi si. Tu es de Paris ? Non. Moi, oui. Avant, j'étais chanteuse. Et oui, mon cher, chanteuse de cabaret. La grande Lucie, c'était moi. J'avais un talent fou et des hommes à mes pieds. Et puis, tout a foutu le camp. Mon mari, le vrai, m'a laissé tomber en me prenant tout ce que j'avais. Alors je me suis mise à boire et à fumer. C'est très mauvais pour la voix. J'ai eu moins de succès. Et là, j'ai venu. Maintenant, je suis là. Tu as l'air gentil, toi. Moi, j'aime bien la jeunesse. Ça me ferait plaisir si tu acceptais de venir chez moi un moment. Tu sais, je ne demande pas beaucoup, juste 200 francs. Je suis surtout les écoliers. Oh là là, ceux-là, ils ont tellement envie qu'ils ne voient rien. Elle se lève et lui demande : tu viens avec moi ? Il lui dit : je n'aime pas l'hôtel. Elle lui dit : mais non, c'est chez moi, pas de risque. J'ai un appartement, je suis une demi-professionnelle et travaille à mon compte. Je ne fais pas partie d'une écurie. Alors, tu viens ? Il réfléchit, se lève et lui dit : bon, j'y vais. Elle lui dit : c'est 2 rues plus loin. Et ils y vont. Et il se retrouve vers la rue de la Bastille. Elle le mène dans une rue qui débouche à cette place. La rue est petite, étroite. Elle a un côté exotique, genre ce que l'on trouve dans le quartier de la Guillotière, vers le Prisunique ou l'ancien Prisunique ou le 3e arrondissement. C'est vraiment minable. Il y a de quoi vous couper tout en vue. Elle lui dit : c'est ici. Elle le fait rentrer dans l'allée d'un immeuble minable. L'immeuble est vieux, sale, sans style, de 3 étages. Il est étroit. L'allée aussi. Elle est noire, sans l'urine, l'humidité, les poubelles. Elle est juste éclairée par une lampe au plafond. Les escaliers, étroits, de pierre. Elle lui dit : un jour, j'avais un client. Il n'a pas voulu que l'on fasse ça chez moi. Alors j'ai mené dans la cave. J'en ai attrapé un rhume. C'est au 2e. Arrivée au 2e étage, elle ouvre la porte de l'appartement de loin. Il entre. Petit couloir, elle va vers une porte,
C'est ma chambre. Il entre.
Elle est petite, le lit a deux places, défait, presque tout juste pour la place. Une table de nuit avec une lampe de chevet en forme de vase rose. Elle enlève son chapeau et enlève son manteau.
Mets-toi à l'aise.
Il reste comme ça. Elle va vers lui et lui dit :
Tu as l'argent ? Déjà ?
C'est pas que j'ai pas confiance, mais alors ?
Elle s'approche de lui et il voit ses grosses lèvres près de lui.
Cela lui donne le vertige. Il manque de tomber dans les pommes. Elle le voit, lui dit
« Qu'est-ce que tu as, mon lapin ? Ça ne va pas ?
Oh, je sais, tu n'as pas dû manger, mon pauvre chou. Allonge-toi, je vais te chercher à manger. Tu vas voir, mon Mimi, comme la Lulu va s'occuper de toi. »
Et il se laisse allonger sur le lit.
Là, voilà, tu seras bien.
Il ferme les yeux. Elle revient. Avec un plateau. Il ouvre les yeux. S'assoit sur le lit. Elle s'assoit à côté de lui.
Tiens, tu as un beefsteak. Cela te remontera.
Il voit la viande et commence à la couper. Elle sourit béatement. Ce sourire le gêne. Il n'en peut plus. Il prend le couteau et se jette sur elle. Elle crie. Il la fait tomber sur le lit, se couche sur elle. Elle crie. Elle ne peut sortir de son étreinte. Cela l'excite. Puis, il sent sa main qui tend le couteau trembler. Et il sent qu'il jouit. Il lui donne un coup. Le cri a été coupé. Elle reste inerte.
Il se redresse et ne bouge pas.
Il est en sueur, mais mieux.
Il se lève, laisse le couteau dans la gorge. Le sang a giclé sur son visage. Son pantalon est mouillé de sa jouissance.
Il sort de la chambre. Puis se dirige vers la sortie de l'appartement. Lorsqu'il voit le sac à main,
il se dit qu'il va peut-être trouver de l'argent. Il l'ouvre. Quelques billets qu'il y a dedans. Et sort de l'appartement.
De l'allée.
Dehors, il se sent mieux. Le sang sur son visage ne choque pas parce qu'il a eu un pansement. qui s'éloigne.
À la clinique, l'infirmière est venue dans la chambre pour faire les soins. Elle a trouvé la chambre vide, tout en désordre. Elle a couru au bureau de Rita. Frappée et entrée.
Monsieur, il a disparu.
Comment cela ?
Il n'est plus dans sa chambre et tout est en désordre, comme s'il avait tout pris pour se sauver.
Rika lui dit, c'est très grave, il faut absolument le retrouver. Cherchez dans tout l'hôpital.
Bien, monsieur.
Ils ont cherché de partout, n'ont rien trouvé, dans les environs non plus. Allait prévenir Danfort dans son bureau. Danfort lui a dit :
Surtout ne dites rien, ne révélez rien de cette histoire. Top secret, nous ne savons rien. Il n'est jamais venu chez nous, compris ?
Oui, monsieur.
Et le bip bip
ne répond pas.
On continue à faire des appels au bip bip, mais le mercier ne répond pas. C'est son double qui a pris le dessus. Il est de moins en moins le mercier. Avec l'argent de la femme, il est entré dans un petit hôtel à Montparnasse, un hôtel minable. On lui a donné une chambre avec un lit à une place et un lavabo. C'est triste à en mourir. Les hôteliers, de vieux gripsous dans les 50 ans, petits, gros, laids. Les autres chambres sont occupées par des gens plus ou moins louches. Le mercier n'a qu'un but dans sa vie. Le cri de la femme pour l'étrangler. L'arrêter en plein cri. Il se dit qu'avec ses victimes, il pourra vivre en leur prenant ce qu'elles ont. Il passe ses journées, ses nuits, à suivre des femmes dans les rues. Et lorsqu'il peut en croiser une, il le fait. la police commence à s'inquiéter de ces crimes en série. Le patron de la police a convoqué à son bureau Denis Pierre. C'est un grand homme, fort, chauve, costume gris. Son bureau est une grande pièce meublée Louis XV.
Il lui dit « Ne croyez-vous pas que tous ces crimes innocentent Monsieur Leclerc, étant donné qu'il ne peut pas les avoir faits puisqu'il est blessé et à l'hôpital ?»
Denis Pierre lui dit « Oui, mais ces crimes ont lieu à Paris et non à Lyon. Il peut y avoir un deuxième tueur de femmes. De toute façon, il est libre. Et lorsqu'il sera sorti, nous verrons bien. » Danfort lui a dit pour l'évasion de le mercier.
Pourvu que ce soit pas le tueur, que faut-il faire ?
L'enfant lui dit. Le retrouver, peut-être le tuer, s'il n'y a rien d'autre à faire.
Denis Pierre lui dit. Le pauvre, il est innocent. C'est nous qui lui avons mis le cerveau d'un tueur fou. Nous allons tuer un innocent.
L'enfant lui dit. Un innocent qui est malgré tout coupable. Il faudrait lui enlever ce genre de récepteur qu'il a. Mais pour cela, il faut le prendre.
Mercier, de temps en temps, et surtout la nuit, est pris de remords. Une voix lui dit que ce qu'il fait est criminel, qu'il ne doit plus jamais le faire. Il aimerait faire taire cette voix qui l'empêche de se sentir bien. Mais quelque chose lui dit que cette voix a raison. Alors il y a une lutte à l'intérieur de lui-même, entre ce qu'il désire et une conscience qui n'est pas de lui. Car il a l'impression qu'elle vient d'autre part. Pourtant, c'est le vrai Le Mercier qui a cette conscience, mais est tellement envahi par l'autre cerveau qu'il prend le sien pour un intrus. Il est avec une grande femme blonde, en tailleur rouge, et la raccompagne chez elle. Mais il se met à crier.
Non, tu ne vas pas faire ça. Au nom de la loi, je t'arrête. Tu es un criminel.
Tu ne peux pas m'arrêter.
Si, parce que je te vois le faire. Je suis témoin, assermenté. Au nom de la loi, je t'arrête.
Tu ne peux pas.
Je n'ai pas encore tué. Tu ne peux pas savoir. Parce que je ne l'ai pas encore fait.
Si, parce que je lis dans tes pensées.
La femme rit et lui dit.
Mais qu'est-ce que vous racontez là? Ben, c'est ça aussi.
Non, pas vraiment, je m'amuse. Menteur, c'est toi qui parles.
Elle lui dit. Ah bon, mon vieux. Tu es un sacré comédien.
Non, je ne suis pas un comédien. Et vous feriez mieux, c'est de vous en aller, car il va vous tuer.
Pourquoi dire tout ça?
Pour qu'elle s'en aille?
Mais si elle s'en va, j'en trouverai une autre. Alors, Laisse-moi. Laisse-moi la tuer, celle-là. Comme ça, je serai débarrassée.
Elle lui dit.
Tu es vraiment étrange. J'ai jamais vu un homme comme toi. Nous sommes arrivés.
Comment?
Oui, je suis chez moi. C'est mon immeuble. Il est temps de se dire au revoir.
Tu vois, hein?
Elle est arrivée.
Tu es content?
J'ai pas pu.
J'en empêcherai chaque fois.
C'est ce que nous allons voir.
Je vais vous dire au revoir dans votre allée.
Non, surtout pas.
Elle sourit, lui dit.
Tu es vraiment très drôle, toi. Allez, entre. Faire un dernier bisou.
Elle ouvre la porte de son allée et entre tous deux.
Petite allée quelconque. Elle se met en face de lui.
Allez, donne-moi un bisou.
Il s'approche d'elle. Excité de cette situation, lui caresse ses cheveux et les lui tire pour mettre la tête en position. Elle crie enfin. Il est heureux et bande. Elle crie, elle crie. Il aime son cri. La laisse un peu crier. C'est tellement bon. Il sort le couteau de sa poche. Elle voit la larme s'approcher de sa gorge. Elle crie encore plus fortement. Il jouit. Et son cri est coupé par la larme.
Yeux fixes. Il lâche ses cheveux,
la tête tombe en avant, inerte.
Il se retire, le corps tombe à terre.
Il est essoufflé, il a froid, de la sueur glacée coule sur son corps. Une sueur d'après le plaisir, mais pas de peur. Quelques taches de sang sur le visage et une tache mouillée devant la braguette du pantalon.
Il sort de l'allée.
Tu as vu si je ne l'ai pas fait?
Tu devrais te dénoncer. C'est moi qui vais le faire. Je t'arrête. J'ai tout vu. Allez, viens, allons au commissariat.
T'es complètement fou?
Si tu me dénonces, toi aussi, tu iras en prison. Non, parce que je suis commissaire.